commandant de bord Roger Moutou avec vous ce soir. Vous prie d'attacher vos ceintures de sécurité. On va décoller dans un instant. Quel plaisir de vous savoir nombreux à nous capter en ce moment même où je parle à Niamey, à Djibouti, au Niger. Merci beaucoup à nos amis qui sont en train de nous capter aussi à N'Djamena, au Tchad. Vous êtes nombreux à nous capter comme d'hab aujourd'hui, mercredi, de la bonne musique country, la musique traditionnelle américaine avec des grands artistes country, mais aussi notre invité spécial aujourd'hui, le docteur Constantine Tchinkou, dans un instant, qui va répondre à nos questions de cette semaine. Ah oui, vous savez bien la question, l'Afrique croit-elle aux chercheurs africains? D'abord, on décolle. Spéciale aujourd'hui parce que notre invité, le docteur Constantine Tchinkou, va répondre à nos questions aujourd'hui et à certaines de vos questions que vous nous avez envoyées aussi. Vous allez aussi écouter certaines réactions de nos auditeurs qui nous ont envoyé des messages sur WhatsApp. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas notre sujet de la semaine. Je répète, si l'Afrique croit-elle aux chercheurs africains, pourquoi y a-t-il pas plus de recherche médicale en Afrique? L'Afrique veut-elle vraiment réaliser sa révolution scientifique? Donc ce sera une émission un peu spéciale, donc il y aura des segments qui vont rater ce soir. Il n'y aura pas la blague du jour, il n'y aura pas le sport, il n'y aura pas l'actualité. On va donner le temps à notre invité de ce soir et bien sûr de la bonne musique country et vos réactions. On décolle bien sûr avec l'artiste connu de la musique country. Lui s'appelle George Harvey Street, mais on l'appelle Harvey Street, qui est né au Texas. Il a grandi à Pearsall, où son père Brian Street était professeur de mathématiques. Il a passé son enfance dans un ranch, hein, comme beaucoup de gens au Texas. Ils ont beaucoup de ranchs là-bas au Texas, où sa famille travaillait pendant les week-ends et les vacances. À l'âge de 9 ans, son père et sa mère, Doris Cooser Street, divorcent. Sa mère déménage alors avec sa sœur Percy. George et son frère ont été élevés par leur père seulement. George a commencé à s'intéresser à la musique quand il était au lycée, où il jouait dans un groupe de rock. Alors il a changé. Quand il a grandi, il a dit non, je fais la country. On écoute Carry It Away.
I don't take my whiskey to drink.
Vous écoutez RM Show sur VO.
Don't believe in chasing crazy dreams. My feet are planted firmly on the ground. But darling, when you come around, I get carried away by the look, by the light in your eyes. Before I even realize right I'm on, baby, I'm long gone. I get carried away, nothing matters but me.
Bonsoir à toute l'équipe RM Show, bonsoir à ses auditeurs et auditrices. C'est Eva depuis Dakar. Concernant le thème sur la recherche scientifique des pays africains, j'apporte ma modeste contribution. Je pense que si des recherches scientifiques sont orphelines en Afrique, c'est parce que les Occidentaux refusent de transmettre intégralement la technologie. Imaginez-vous des données africaines sont envoyés même dans les laboratoires du Nord, les mieux équipés pour des recherches. C'est inadmissible, voyons. L'Afrique dépend beaucoup des pays du Nord pour le budget consacré à la recherche. Et je crois que c'est une discrimination scientifique. Il faut que ça cesse. Il faut que nous croyons à nous-mêmes. Il faut que nous nous battons pour une Afrique meilleure. Merci.
Washington DC. On vous avait promis qu'on aura cette semaine encore le docteur Tchenkou qui est notre invité, docteur Constantin Tchenkou que vous rappelez bien sûr, qui a été notre invité il y a déjà quelques semaines et il est encore notre invité en tout cas pendant toute cette période de confinement de coronavirus. Docteur Constantin Tchenkou, bonsoir docteur.
Bonsoir Roger, bonsoir chers auditeurs.
Comment va la santé docteur?
Formidable, bon Dieu est bon, nous sommes en forme.
Ah mais ça c'est ce qui est essentiel en tout cas. Docteur Constantin Tchenkou, beaucoup de choses se sont passées, on en parlera avant tout au long de cette émission. Mais d'abord, je m'en vais, comme vous le savez, dans cette émission, vous ramener un autre sujet de cette semaine, comme dans RM Show on débat toujours un sujet. Il y a beaucoup d'auditeurs aussi qui nous ont demandé de vous avoir pour réagir à ce propos. Notre sujet de cette semaine, comme confinement et coronavirus oblige, nous restons dans ce même sur le même thème. L'Afrique croit-elle aux chercheurs africains, docteur?
Oui, je pense que l'Afrique, pendant longtemps, a mis son destin entre les mains d'autres personnes, des non-africains. Et ce phénomène commence loin même avant la colonisation. Nous ne valorisons pas notre culture, nous ne valorisons pas notre langue, nous ne valorisons pas l'homme africain en tant qu'être, parce que dans le passé et même maintenant, il est dominé. Et cette domination n'est pas seulement une domination physique, c'est une domination psychologique, psychiatrique, mentale et sociale. Je vous dis, l'Afrique a été en, on dit quoi, a été rendu en esclave. Et cette mentalité d'esclave est perdue. Il y a 14 pays africains qui ont signé un pacte qui s'appelle le pacte des Gaules. Ce pacte a été signé pendant la décolonisation. Et ce pacte dit qu'il y aura la continuation de la colonisation. Et que les pays africains vont déposer leurs réserves monétaires dans un autre pays qui n'est même pas dans le continent africain. Et lorsqu'ils ont besoin de leur propre argent, on va les charger un pourcentage d'intérêt. C'est comme si vous prenez votre salaire chaque mois, vous l'avez donné à votre voisin qui décide de votre sort.
Qui décide de comment vous allez dépenser même cet argent-là.
De comment il allez vous dépenser votre argent. Et en plus, il n'est pas en train de sauvegarder votre argent, il l'investit. Récemment, un journal allemand, avec l'aide de l'Italie, a publié que la France reçoit près de 500 millions d'euros par an venant des pays africains. Alors, on dit que les pays africains sont pauvres et moins développés, peu développés, en voie de développement. Et le pays qui est riche va prendre 500 millions d'euros par an dans ces pays africains qui sont déjà dit pauvres. C'est pour qu'on devienne comment. Alors, je dis, nous avons créé des organismes internationaux très connus. Nous avons créé des organismes internationaux tels que l'Église catholique et le Vatican. Quand ils sont face à une situation pareille, où des pays africains manquent de l'eau potable, qui est responsable de toutes les maladies diarrhées, manquent de désinfectants, qui est responsable du paludisme, parce que le paludisme n'existe pas en Europe. Il n'existe pas en Europe pourquoi? Parce que les Européens l'ont combattu avec l'assainissement de la gouvernement. Nous disons que quand on parle de crimes contre l'humanité, il n'y a pas plus de crimes contre l'humanité que ce que nous vivons aujourd'hui.
Est-ce que c'est ce qui fait, docteur Tchenko? C'est ce qui fait qu'il n'y ait pas plus de recherche médicale, par exemple, en Afrique. Vous qui êtes docteur, vous avez étudié aussi en Afrique, vous avez étudié aussi en Amérique. Mais est-ce que c'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, on n'ait pas de recherche médicale en Afrique?
En français, on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand vous avez faim, la seule chose que vous avez besoin, c'est de manger. Et lorsque les Africains ont le pouvoir de décider, la première chose qu'ils décident, c'est de manger. Ils mangent pour eux, ils mangent pour leur famille, ils mangent pour leur ville, ils mangent pour leur village, ils mangent pour leur tribu. Parce que tout ce que les gens ont envie, c'est de manger. Quand on finit de manger, on se demande si on peut avoir un peu de quinine, ou bien des vaccins pour survivre. On n'a pas de projet à long terme. On n'a pas de projet à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. On n'a pas de grands projets de société. On veut survivre. L'Africain est encore au niveau de la subsistance. Quand vous dépassez le niveau de la subsistance, vous commencez à vous donner des loisirs. Du plaisir. Quand vous finissez les loisirs, et plaisir, vous commencez à faire maintenant la philosophie du monde. Vous devenez des Socrates et des aristocrates, mais ça arrive avec une certaine aisance. L'Afrique n'a pas les moyens de subsistance. Il est difficile que lorsqu'on n'a pas des médicaments à l'hôpital, on n'a pas de vaccins, on n'a pas de lits, on n'a pas de ventilateurs, on n'a pas d'intubation. Il est difficile qu'on dépasse cette étape où il faut sauver la population pour aller faire des recherches. Les recherches demandent beaucoup de ressources et souvent les résultats sont très peu. Je peux même aller même loin que ça. Les Chinois, à une époque, ont vu qu'ils n'avaient pas les moyens des recherches. Vous savez ce que les Chinois font? Ils font les recherches des autres.
Ah bon?
Oui, chaque jour, il y a pointe dans la Cour internationale contre la Chine. Tout ce que la Chine fait, c'est l'espionnage scientifique. Ils sont même en train de développer, où je détaille, un réplica du Airbus 380. Parce que lorsque les Européens voulaient la main-d'œuvre moins chère, ils sont allés à Chine faire certaines parties de l'avion. Et les Chinois ont fait les réplicas. Et aujourd'hui, ils font les réplicas de tout. Que ce soit les sacs à main Louis Vuitton, que ce soit ce que vous fabriquez, les Chinois font des réplicas. Parce que c'est plus facile de tricher ce que quelqu'un a de cher. C'est comme recherche. Tu peux aller plus loin en médecine. Quand vous attendez des médicaments génériques, le médicament générique aux États-Unis coûte entre 4 dollars et 10 dollars. Alors que ce même médicament, lorsqu'il est produit, il coûte autour de 100 à 120 dollars. Pourquoi? Parce que ceux qui produisent ce médicament, les industries pharmaceutiques, mettent leurs dépenses qu'ils ont fait pour les recherches pour ce médicament. Après 10 ans, on les donne à peu près 10 ans pour récupérer leur argent. Après ça, on dit que le médicament doit servir l'humanité. Il devient générique. Et le coût va de 120 dollars, 130 dollars à 3 à 4 dollars. Parce que la vraie valeur du médicament, c'est 3 à 4 dollars. Mais il faut beaucoup de recherches pour arriver à un médicament. Vous voyez que la recherche coûte très très cher. Il est difficile.
Mais l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre.
Mais par contre, nous avons autre chose qu'on peut faire.
Docteur, l'Afrique. Docteur, l'Afrique. Oui, mais docteur. L'Afrique, docteur, je disais, l'Afrique a quand même de ressources naturelles, des richesses naturelles. Donc, c'est pas que l'Afrique est pauvre, je veux dire.
Nous avons des ressources naturelles, mais nous avons aussi des priorités. Il y a des priorités primaires et il y a des priorités secondaires. Comme je veux dire, vous prenez un pays comme le Tchad, vous prenez un pays comme le Gabon. La priorité, c'est quoi? On veut que les enfants aient un minimum d'éducation. On veut qu'il y ait les médicaments élémentaires et essentiels dans les hôpitaux. Et on veut aussi que le pays soit en sécurité. Lorsqu'on a pu remplir les trois, on peut aller plus au-delà. Je prends un exemple des pays que je connais bien en Afrique centrale, le Cameroun. Est-ce qu'il y a l'approvisionnement en eau potable pour tous les citoyens? Et la réponse est non. Est-ce qu'il y a de l'énergie, de l'électricité dans toutes les maisons chaque jour pour tout le monde, même qu'il y a des coupures tous les jours. Ce qu'on appelle le délestage. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de générer suffisamment d'énergie pour tout le pays. Alors, je vous parle des choses de base.
Oui, des choses de base.
Là, vous faites des recherches.
Oui.
Et nous faisons des recherches. Et nous pensons que nous avons des plans médicinaux qui sont vraiment formidables. Mais je dis, qu'on n'a pas assuré la base, l'essentiel n'est pas encore acquis. On n'a pas encore l'utile, on ne peut pas aller à l'agréable. Nous sommes encore au niveau des inutiles.
On est vraiment au niveau de ça, c'est très bien compris, hein, docteur, très bien compris en tout cas. Alors, je finis alors juste par poser aussi cette question avant qu'on puisse aborder autre chose. Est-ce que, d'après vous, vous les professionnels, je veux dire, l'Afrique veut-elle vraiment réaliser sa révolution scientifique, vous pensez, docteur ?
Je vous dirais que, au point de vue potentiel humain, au point de vue des enfants africains, au point de vue de ce qu'on appelle le potentiel d'intelligence, que ce soit l'intelligence sociale, que ce soit l'intelligence mathématique, physique, l'Africain n'a rien à envier à qui que ce soit. Puisque quand ils sont dans le système plus avancé, ils sont les meilleurs. La première chose qui manque à l'Africain, c'est l'organisation, la discipline individuelle et collective. Il nous manque encore cette discipline. La deuxième chose, c'est l'organisation de la société. Même le concept des nations n'est pas encore très bien intégré en Afrique. Puisque en Afrique, la plupart des gens s'identifient plus à un clan ou à un tribu que à la nature. Ils sont d'abord d'un clan avant d'être de la nature. Parce que ce concept de nation manque. Et la dernière chose qui manque à l'Afrique, et que beaucoup d'autres continents sont en train de faire, c'est cette unité des pays pour devenir un. Si vous voyez l'Europe, quand elle a fait face au challenge des États-Unis et de l'Asie, l'Europe a décidé de faire un bloc. Voici l'Afrique maintenant, qui est menacée non plus seulement par les Européens, mais par les Chinois, les Asiatiques. Et très récemment, on a vu des cas où des Africains ont été maltraités en Chine. Et les voix se sont levées, mais c'est des voix dispersées. Parce qu'aucun pays africain ne peut affronter la Chine. Mais si tous les pays africains se réunissent comme l'Union européenne, nous pouvons affronter qui que ce soit. Mais en rang dispersé, en petit micro-état, il est difficile d'affronter le monde d'aujourd'hui. Alors nous avons besoin de centraliser nos forces, de nous rattacher, de créer un bloc et un seul front à ceux qui veulent nous détruire. L'Afrique est le seul continent qui n'a pas un protocole de programme contre les autres pays. Alors que tous les autres continents ont un programme et ils ont un programme agressif pour comment dominer les autres. L'Afrique n'y pense même pas.
Monsieur Roger Moutou. de VO Afrique. Moi, c'est Anita. Waouh, j'aime vraiment votre émission. Juste pour vous souhaiter une bonne soirée et merci pour votre travail.
De la VOA Afrique. Je suis André Alain Belman Bumputu. Je vous dédie ce message depuis le Congo-Brazzaville, plus précisément de Pointe-Noire. D'abord à toi-même, mon frère Roger. Je suis fier de toi pour tout ce que tu fais à la VOA Afrique. Sois beaucoup béni. En ce qui concerne le thème de la semaine, coronavirus. Sur ce, je pars d'abord d'une observation que l'histoire de l'Afrique trouve sa justification dans la colonisation avec son corollaire, la domination des pays riches sur les pays pauvres. En ce sens que cette domination a envahi tous les domaines afin que les Africains puissent tout attendre de l'Occident. C'est l'Occident qui, à distance, définit, dirige et dicte les politiques africaines. Voilà pourquoi, dans bon nombre des pays africains, les investigations sont plus orientées à la politique et à l'armée pour contrôler le pouvoir. Sur ce, la recherche scientifique entre dans les oubliettes. Et pourtant, les ministères de la recherche scientifique existent dans bon nombre des pays africains. Mais les résultats escomptés sont moindres pour cause du manque de financement. Aujourd'hui, avec le Covid-19, certaines recherches en Afrique semble prometteuse avec la découverte du Covid organique à Madagascar avec le docteur Jérôme. En RDC, on parle du fameux remède Mana Covid pour ne citer que ces exemples-là. Fort malencontreusement, les Africains eux-mêmes ne font pas confiance à leur propre recherche parce que l'Occident n'a pas dicté une conduite. Et pourtant, le Covid organique est en train de faire ses preuves et sauve des vies à Madagascar. Vis-à-vis de l'Occident, les Africains affichent un certain complexe. Or, le complexe freine le décollage d'une quelconque révolution scientifique parce que l'on ne croit pas à ses propres capacités créatrices. C'est pour cette raison que le professeur congolais Théophile Obenga a écrit, je le cite, « Pour que l'Afrique décolle dans ses recherches, il faut à tout prix bannir le complexe d'infériorité que les Africains affichent vis-à-vis de l'Occident. Ainsi donc, à mon humble avis, pour remonter les difficultés d'une révolution scientifique en Afrique, premièrement, il faut d'abord des grands investissements dans le domaine de la recherche. Deuxièmement, les Africains doivent conjuguer des efforts entre eux et croire en leur capacité créatrice. Troisièmement et enfin, les Africains doivent se débarrasser du complexe d'infériorité qu'ils affichent vis-à-vis de l'Occident et voler de leurs propres ailes. Ce n'est qu'en ce moment-là que l'on parlera d'une révolution et d'un décollage des Africains dans la recherche scientifique. Merci Roger, on est ensemble, merci.
Chestnut et Tim McGraw, les deux grands en tout cas de la country se rencontrent. C'est ça la musique rockstar. C'est avec ce morceau que nous allons prendre un petit break, un petit repos. Notre invité spécial aujourd'hui, le docteur Chinku, répond à nos questions et nous écoutons vos commentaires. Bien sûr, please don't go, I gotta go. God bless. Peace, Africa.
Bienvenue à bord.
Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaite un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité.
Vous ceinture de sécurité en deuxième partie la plus importante de RM Show. Et bien sûr, vous êtes en train de me laisser des messages sur WhatsApp ou sur Facebook. Bien sûr, WhatsApp, c'est +1 703 350 37 31. L'Afrique croit-elle aux chercheurs africains? Pourquoi y a-t-il pas plus de recherche médicale en Afrique? L'Afrique veut-elle vraiment réaliser sa révolution scientifique? La grande question de cette semaine, le docteur
Dr Chinku est notre invité. Dr Chinku, que vous connaissez très bien, c'est notre expert en la matière et il est toujours notre invité dans cette émission pour nous en parler un peu plus. Dr Chinku et Dr à Healing Hands Medical Center à Vienne, ici, non loin de chez nous ici. Et bien sûr, il est d'origine camerounaise et bien sûr, il a vécu, il est allé à l'école ici au Cameroun. Il connaît trop bien, il maîtrise cette problématique, je dirais, de coronavirus, cette maladie. Il sait comment répondre à nos questions et à vos questions que vous avez posées. Mais d'abord, on redécolle avec de la bonne musique country avant de continuer notre interview avec Dr Constantine Chinku.
J'ai profondément douleur à tous les peuples américains, mon condoléance à cette épidémie. Et je vous prie à Dieu tout le monde bonheur. Merci Rosé, merci.
Le président malgache Andry Rajoelina qui faisait la promotion d'une boisson faite à base d'artémisia et d'autres plantes médicales locales et qui selon lui guérit le nouveau coronavirus. Apparemment il y a eu même eu aussi la personne derrière tout ça, c'est aussi un docteur congolais, Jérôme. Docteur Jérôme, pouvons-nous dire ici, docteur Chinku, que Madagascar a découvert un traitement à base des plantes contre le coronavirus?
Je vais te prendre en deux volets. Le premier volet, c'est une bonne chose que les gens se mettent au travail pour trouver des solutions. Surtout parce que maintenant, nous n'avons pas de solution. On n'a pas de vaccin qui a fait toutes les trucs et on n'a pas de médicaments qui a été validé. Mais pour une fois, on trouve un médicament en Afrique qui a l'air de marcher. Mais en médecine, en général, la seule chose qu'on cherche dans le médecin, c'est pas qu'elle soigne. Un médicament peut te soigner et peut te donner d'autres effets. J'ai dit ça pour dire qu'il faut encore faire beaucoup de travail sur ces médicaments. Faut assurer quelle est la dose qu'on donne, combien de fois on la donne par jour, quels sont les effets indésirables, et si on peut purifier ces médicaments de telle sorte qu'on diminue les effets indésirables et on augmente les effets désirables. Ça, c'est des recherches que les Africains doivent se mettre au travail. Mais je dis que ça doit être un bon médicament. Et nous avons beaucoup de médicaments en Afrique qui aident dans ce processus. Mais il faut toujours se rappeler, 80% des patients qui auront ce coronavirus n'auront pas de symptômes, ne seront pas malades. Alors, à chaque fois que quelqu'un te dit qu'il a guéri un malade, il faut se demander que est-ce que le malade a été guéri par le médicament ou bien le malade devait guérir de lui-même. Tout ce que vous entendez dans les médias là, c'est 20% des malades coronavirus. Il n'y a que 20% qui vont se présenter avec nous. Sur les 20%, à peu près, 15% auront juste besoin d'un peu d'oxygène à l'hôpital. 5% auront besoin d'être intubés et à peu près 1 à 2% vont mourir. Voilà le scénario. Tout ce que vous entendez dans le média, c'est les 20% là qu'on parle. Alors, quand on vous dit que la prévalence ou le nombre de malades dans une ville, c'est 100, il faut multiplier ce numéro au moins soit 10 ou soit 15 pour avoir le numéro réel. C'est pourquoi on dit qu'on va réellement connaître les chiffres sur le coronavirus lorsqu'on va tester tout le monde.
Oui, parce que là déjà, docteur, ici aux États-Unis, d'après le CDC, nous sommes presque à 1 million de cas. Donc cela veut dire.
Aujourd'hui, nous avons atteint le cas de 1 million.
Oui.
Et nous avons atteint 58 000 essais.
Wow.
Et 58 000 essais veut dire que. En 2 mois, on a eu plus de décès qu'on a eu pendant la guerre du Vietnam. Les Américains ont perdu plus de personnes en 2 mois que ce qu'ils ont fait pendant des années dans la guerre du Vietnam.
Wow!
Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à comprendre certaines choses sur ces virus.
Ah bon?
Et un virus respiratoire.
Oui.
Mais ce qui tue les gens, ce n'est pas le problème respiratoire en général.
Et c'est quoi?
C'est un problème de coagulation, c'est un problème de thrombose, c'est un problème de caillots qui se forment au niveau des veines. Et certains de ces caillots vont se bloquer dans les systèmes respiratoires. D'autres vont se bloquer au niveau du cerveau qui provoque des saignements dans le cerveau. Le problème qui tue les malades, c'est ce problème de thrombose. Microvasculaire. Ça est la cause immédiatement des détériorations de la plupart des malades.
Waouh! Donc là, on connaît déjà, c'est ça, mais est-ce que les. Donc jusque-là, ici aux États-Unis, on a toujours. Est-ce qu'on a toujours ce problème de machines respiratoires? C'est comme ça qu'on appelle ces machines-là, docteur.
Des ventilator machines.
Oui. Est-ce qu'on a toujours ce problème-là? Ouais.
On l'avait jusqu'à il y a quelque temps, mais comme je vous dis, ce qu'on appelle le social distancing, le confinement, on a demandé aux gens de rester chez eux. La courbe est déjà aplatie, elle commence à baisser dans la plupart des endroits. Mais ça, c'est un peu dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que les gens sont toujours infectés. Mais on a diminué le taux d'infection. Alors les gens commencent à vouloir se lâcher. Ce n'est pas le moment de lâcher. Il faut qu'on continue à faire diminuer les normes jusqu'à ce que ça ne soit plus un problème.
Et ça peut prendre combien de temps, docteur?
En général, c'est la quarantaine. Nous avons atteint 40 jours et on a vu qu'il y a un succès qui montre déjà. Il faut encore à peu près une autre quarantaine pour éradiquer. Parce que je vous avais dit une fois qu'il y a deux types de formes d'approche. Il y a la mitigation et il y a l'éradication. Pour éradiquer, il faut au moins 40 jours de confinement.
Et docteur, pour l'actualité maintenant en Afrique, on a vu aussi ce nombre croître en Afrique. Et est-ce que vous pensez que l'Afrique est en train, ou il y a certains pays qui sont en train, on a vu que le Ghana était en train de faire un bon boulot côté sensibilisé, mais on a vu aussi que le nombre de cas continue à croître au Ghana, par exemple.
Le nombre de malades continue à croître dans la plupart des pays africains. Mais la vitesse de croissance n'est pas égal à ce qu'on a vu dans des pays tels que la Chine, tels que l'Italie, tels que la France ou même aux États-Unis. La vitesse de croissance est encore basse. Parce que je me rappelle, on avait dit, parce que la plupart des pays africains ont été frappés vers le 15 mars, lorsque la France fermait ses frontières. C'est là où il y a eu ces vols qui sont partis précisément de la France. Ils sont en Afrique. Et nous avons attendu cette période d'incubation qui est autour de 14 à 21 jours. Et nous avons observé que la vitesse de propagation n'a pas été ce qu'on attendait. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est les méthodes traditionnelles que les gens utilisent en Afrique? Nous ne savons pas encore. Mais nous pouvons confirmer que la vitesse contagiosité n'a pas été aussi alarmant que ce que nous avons en Europe. Mais j'ai entendu quelque chose aujourd'hui venant d'un pays africain qui disait que l'OMS avait dit que si l'Afrique ne se prépare pas, il faut s'attendre au pire. Et la personne qui disait ça disait que c'était une mauvaise communication de l'OMS. Moi, j'ai dit non. L'OMS sonnait ce qu'on appelle l'alerte. Disait aux gens, il faut faire attention. Vous n'avez pas les méthodes de prévention secondaire. Alors, essayez, comme vous pouvez, d'empêcher que cette maladie qui est pour le moins importée devienne une maladie locale. Je pense que beaucoup de pays africains ont travaillé dessus. Et les résultats paraissent encourageant, je ne peux pas dire non, mais je dis encourageant en ce moment.
En ce moment. Et est-ce qu'il est, il est toujours, ou il est encore, il était, mais il, est-ce qu'il est toujours trop tôt, très tôt de dire si le corona, ce virus, ne se développe pas aussi vite dans un endroit où il y a la chaleur comme en Afrique?
Ce que nous connaissons, que lorsque nous avons les changements de climat des saisons et qu'il y a du soleil, il y a les rayons solaires qui frappent les bactéries et les virus. Et il y a la chaleur. Certains virus ne peuvent pas supporter des températures élevées telles que nous avons en Afrique. Ça, c'est un constat qu'on a déjà. La seule question, c'est que est-ce que ça s'applique au coronavirus? Nous sommes en train d'observer toujours, on ne sait pas. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que la vitesse de propagation que nous avons observée en Europe, en Asie et aux États-Unis, l'Afrique n'est pas en train de avoir la même courbe. Elle va un peu plus lentement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas échapper, parce que souvent, un virus peut aller trop vite. Et il descend vite et un autre peut aller très lent, mais durer longtemps. Vous comprenez?
Oui, oui.
Et si on ne connaît pas encore la cause, mais ce qu'on voit comme statistiques sont tout de même encourageants.
Tout de même encourageant. Docteur, je reviens d'abord aussi à la. À cette, sujet de, enfin, ce sujet de cette semaine dans RM Show. Je veux juste comprendre, avant qu'on puisse finir, d'après vous, vous avez parlé de basique, des besoins de base que l'Afrique manque. Alors, que faire pour que les chercheurs africains puissent travailler en toute quiétude, puissent aussi travailler dans des bonnes conditions? Que faire parce que ces chercheurs-là sont là? Qu'est-ce que l'Afrique doit faire à part ces besoins basiques dont vous avez parlé, l'électricité, l'eau qu'on n'a pas? Que faut-il faire?
Vraiment, c'est une très belle question. Hier, j'ai suivi l'interview du vice-ministre de l'Éducation du Ghana.
Oui.
Il a fait une très belle présentation où il veut que l'éducation de l'Afrique aille. L'investissement que l'Afrique doit faire le plus, c'est dans l'éducation. La seule chose qui peut équilibrer le monde, c'est l'éducation. Et lorsque quelqu'un est éduqué, qu'il soit de quel pays, de quelle nationalité, il peut opérer dans tout ce thème. Mais le modèle d'éducation pour l'Afrique doit être un modèle qui tend à résoudre les problèmes et non à réciter les textes. Nous devons partir des mesures où on vous donne deux livres à lire et puis on vous pose les questions sur le livre. Et ce ministre a présenté par exemple que au lieu de demander aux enfants quels sont les éléments qui polluent la ville, il a demandé qu'on regarde si on peut créer une ville sans pollution. Il demande aux enfants comme un challenge, créez-moi un modèle où il y aura une ville sans pollution. Ça veut dire qu'on envoie l'enfant lui-même chercher les solutions aux problèmes réels. Au lieu de réciter les capitaux des pays occidentaux, de réciter les noms de chefs d'État, de réciter je sais quoi, il faut une éducation pragmatique, une éducation qui va résoudre les problèmes. Une éducation qui tend à réciter ce que le professeur a enseigné. On ne veut pas les charger de copies. On veut des gens qui réfléchissent, qui résolvent les problèmes qui se posent. Par exemple, maintenant, on peut demander à un enfant de concevoir un système où il y a une ville sans coronavirus.
Oui.
Trouvez-moi les modèles. Comment faire pour qu'on ait une ville sans coronavirus? Trouvez-moi des modèles. Rentrons à la recherche maintenant. Je pense que les Africains doivent toujours continuer la recherche. Mais elle doit être très targetée, ciblée. La recherche doit être ciblée à nos besoins et très limitée dans le budget. Parce que pour le moment, on doit éduquer la masse. C'est comme une pyramide. La tête doit être au top de la pyramide. Mais ce qu'il faut, c'est l'éducation de la masse. La masse doit être éduquée d'une manière qui tend à résoudre les problèmes quotidiens. Je prends l'exemple.
Oui.
Le problème d'approvisionnement d'eau potable au Cameroun depuis des années. Ce qu'on doit poser aux enfants qui vont à l'école à Polytech, à l'école de géologie, comment faire pour qu'on ait assez d'eau potable? On a un problème d'énergie, on pose aux enfants. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir suffisamment d'énergie pour qu'il n'y ait plus de délestage? On doit toujours poser des questions aux enfants. Et on cesse d'avoir des modèles occidentaux qui étaient de réciter les noms de villes, les noms de cités, les noms d'anciens présidents et des déclarations, des postes. Nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin des gens qui peuvent résoudre les problèmes posés.
Ça, c'est le seul.
Vous vous rendez compte?
Oui.
Si on oriente ça de cette manière, personne n'est venu demander le travail à l'État.
Ça, c'est
parce que le gars, à chaque moment,
oui. Il
a un problème. C'est à lui de résoudre ce problème. Il va lui demander à l'État de l'employer après un doctorat ou bien après une étude. Il va tendre à créer son entreprise.
Oui.
Il sera un libre penseur. Il y aura la libre entreprise.
Merci beaucoup, docteur. Mais je finirai avec ma dernière question pour nos auditeurs qui sont en train de nous capter. partout dans le monde, à Kinshasa, à Bamako, à Dakar, à Yaoundé, à Libreville, nos amis qui sont au Maroc, à Lunda Nord, c'est qui nous capte chaque jour. Tous les Africains sont en train de nous capter en ce moment, les frères et sœurs qui sont aussi dans la diaspora. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil en ce moment où nous sommes avec la situation de ce virus?
Je dirais à nos frères que l'Afrique a une population très jeune et très dynamique. La solution est que l'Afrique va venir des Africains. L'Afrique n'a pas d'amis. L'Afrique n'a pas d'amis. Tout le monde qui vient de se chercher à nous exploiter, à nous récoloniser et à nous rendre grâce. Nous devons réussir et réussir cette mission. Nous devons travailler dix fois plus fort. Nous devons travailler très fort et
merci beaucoup docteur pour votre temps. On va continuer à vous déranger tout au long de cette période. Merci docteur.
C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir et un privilège de parler à nos cadets. Merci.
Je vous capte depuis qu'ils sont amis. L'Afrique a des compétences. Des compétences, c'est-à-dire l'Afrique a des chercheurs. L'Afrique a des intellectuels, des scientifiques bien en place. L'Afrique a la ressource première, les ressources premières en général. L'Afrique en a. Mais ce qui manque à l'Afrique, c'est la technologie. Si on dote l'Afrique d'une technologie ou des technologies qu'il faut, l'Afrique fera trembler la planète, l'Afrique fera des miracles et l'Afrique, à travers ses scientifiques, sera respectée et sera aussi impliquée dans des grandes décisions impliquant la bonne marche de la planète. Voilà, c'est juste la technologie qui nous manque. Et si nous manquons sur la technologie, ce n'est pas dire que nous manquons l'argent, mais sauf que nous sommes dirigés par des autorités ou des politiciens qui ne s'occupent pas vraiment de la science. Ils attendent tomber malade pour aller se soigner ailleurs. Et malheureusement, avec Covid là, nous sommes obligés, entre guillemets, de mourir ensemble. Vous voyez, mais s'ils mettaient du sérieux et donnaient tous les matériels possibles de la dernière génération aux scientifiques et intellectuels africains, je vous assure, nous avons la matière et l'Afrique est capable de faire des grandes réalisations alors. Merci.
TV, you see the ball game, watch it wave by ladder and say, you rock on me, the rhythm wants you anyway, but when you're done, you like a magic, you get your sign, your name on that slipper shirt of mine you wear, never watch that thing again, yeah, he's my
de la musique country, un jeune mais vraiment qui fait de la bonne musique, né en Géorgie. Il est bien sûr, il a commencé à faire de la musique trop jeune et d'ailleurs Brantley est allé à Nashville pour aller bien se former parce que vous savez Nashville c'est là même où la country music se passe et pour tout ce jeune qui rêve de faire de la country music, c'est leur ville. Merci à vous, merci à notre invité de ce soir, Dr Chinku Constantine, merci beaucoup à vous qui avez participé à cette émission. Merci pour vos messages, merci à nos réalisateurs, merci à nos producteurs, merci à Georges Léonard Sagnon, à Lionel Rodanira Gaïma, merci à Michel Joseph, merci infiniment à Joselle Morissin, à Jean-Louis Maffemin, RM Show, gotta go, job, bless Africa.
C'était RM Show,